Donc, bonsoir à tous. Voilà, ce soir, on voulait partir d'une bonne nouvelle à partager avec vous, qui est que en 2022, eh bien, nous étions 2,56 milliards de chrétiens dans le monde, selon Le Monde. Alors voilà, tous ceux qui se sentent un peu seuls dans leur foi, dites-vous que voilà, si vous sentez seul à 2,56 milliards, eh bien, il y a peut-être quelque chose à faire rejaillir pour se dire, en fait, non, je ne suis pas tout seul. Et on peut se réjouir, parce que c'est quand même 32% de la population mondiale, dont un quart de ce vit en Europe. Et en plus, ce chiffre est croissant, alors voilà, réjouissons-nous. Réjouissons-nous de penser qu'il y a des milliards d'individus comme nous qui croient en Dieu. Et en même temps, mais qu'est-ce que ça veut dire, croire ? Croire, c'est un mot qui vient du latin, comme beaucoup de choses dans notre Église, et qui veut dire avoir foi, avoir confiance en quelqu'un, tenir pour vrai ce qui est dit. Alors, ce soir, nous allons nous intéresser à Dieu qui se révèle à l'homme et de la réponse de l'homme qui est capable de cette réponse, qui est capable d'entendre Dieu. Cette réponse donc de l'homme à Dieu. Évidemment, le mot « homme » va être pris au sens du mot « humain », d'accord ? Pas de procès d'intention, s'il vous plaît, sur ces sujets. Voilà, donc l'homme est capable de Dieu. Parce que, en fait, je vais partir sur cette question qui est bête, mais comment l'homme en est-il venu à croire en Dieu ? D'où lui vient cette faculté ? Ou comment cela s'explique-t-il ? Bien, je crois que pour pouvoir y répondre, il faut remonter au projet originel de Dieu, à ce qui fait que nous sommes vivants. À ce moment-là, nous le croyons parce que la Bible nous l'enseigne, Dieu crée l'homme pour être son vis-à-vis, pour lui faire face à face. Le vis-à-vis, en hébreu, c'est vraiment le mot face à face. Pour être en relation avec lui-même, bien plus pour être en communion. Il y a vraiment une dimension gratuite dans l'acte créateur. Dieu ne crée pas l'homme d'abord pour qu'il puisse tenir une place dans l'écosystème et maintenir un écosystème qui va bien, même si c'est important. Dieu crée l'homme pour lui-même. Le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes numéro 24, a cette belle phrase « L'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. » Dieu veut l'homme parce que l'homme, c'est chouette. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. L'homme vient de Dieu, il est fait pour Dieu, et Dieu l'a fait capable de le rencontrer. Et je crois qu'on le perçoit plus ou moins profondément, plus ou moins confusément, parce que, en fait, tous, on découvre qu'on est fait pour l'absolu. On a envie d'aller à l'infini. On a envie de quelque chose de grand. Et même, quand bien même, on ne perçoit pas exactement cela, même si on s'enferme dans le matérialisme, si on fait de son propre bien-être un absolu, tentation très contemporaine, je vous l'accorde, je crois que l'homme sent qu'il s'ampute d'une dimension essentielle de son être, en fait. Vous avez peut-être croisé des gens qui vous ont dit « Mais j'aimerais bien avoir la foi, quelle chance vous avez de croire ?» Ça peut arriver, on sent qu'il nous manque une dimension importante. L'homme cherche un dépassement, un absolu, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouve la vérité et le bonheur qu'il cherche. Alors, ce désir d'absolu s'exprime parfois de manière plus ou moins ajustée, dans le beau, dans l'art, dans l'exercice de la pensée, dans la recherche scientifique, et aussi la recherche parfois des ordonnées du plaisir, de la puissance, etc. Mais vraiment, seul Dieu peut répondre à cette aspiration qui est au cœur de l'homme et qui faisait dire à saint Augustin « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. On aura beau aimer l'art à l'infini, on aura beau chercher toutes les connaissances scientifiques du monde, on aura beau chercher le bien-être matériel, notre cœur restera sans repos, parce qu'il porte en lui le désir de Dieu. Mais qui est ce Dieu ? Et du coup, à quoi est-ce qu'il ressemble pour que je puisse lui répondre ? Puisque je suis capable de lui répondre, capable de l'entendre, à quoi est-ce qu'il doit ressembler ? Où est-ce que je dois le chercher ? Eh bien, pour résoudre cette question, l'homme a d'abord cherché ses réponses à partir de ce qu'il avait sous la main, si je puis dire, le monde matériel qu'on a autour de nous, ce monde qui est créé, qui est œuvre de Dieu. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, qui est une lettre très puissante, elle est très belle, chapitre 1, verset 20, dit « Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui, de lui, est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. » C'est beau, ça. En regardant le monde, on peut se rendre compte que Dieu est là parce qu'on voit sa divinité et sa puissance éternelle. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à la messe hier et qui ont la chance plus grande encore de retenir les lectures, vous aurez reconnu la première lecture d'hier. Voilà. Encore une fois, le cathé adulte est super bien organisé. On tombe toujours dans le bon timing. Voilà. Donc, bref, en contemplant la création, son ordre, sa complexité, sa beauté, l'homme peut arriver à connaître Dieu comme origine et comme fin de l'univers. Il peut découvrir devant ce monde organisé que Dieu est un être ayant voulu un monde vivant, organisé, et un monde qui fondamentalement est bon. C'est ce qu'exprime la Genèse dans ce récit que vous connaissez par cœur, le récit de la création, premier chapitre, « Dieu vit que cela était bon ». Bien, je crois que ça rentre en écho avec une expérience de l'homme, une expérience profonde, qui dit quand il voit le monde devant un beau paysage typiquement, il se dit « mais oui, c'est bon ». Dieu prend en plus le temps de contempler son œuvre en disant que cela est bon. C'est beau, quand même. Ainsi, bref, par la contemplation de la création, je peux comprendre quelque chose de Dieu. Autrement dit, Dieu a fait que la création parle de lui. C'est quand même extraordinaire. Il a pu faire une création qui soit une espèce d'écran complet, qui ne nous donne aucune idée de qui l'a créé. Il s'est débrouillé pour que la création nous parle de lui. C'est pas anodin. Ça veut dire que Dieu veut qu'on le connaisse. Sinon, il serait débrouillé autrement. Dieu veut qu'on le connaisse. Et alors, s'ouvre pour nous le chemin de la foi, au sens fort du terme. L'acte de foi, c'est cette quête qui vient d'une expérience de Dieu, l'expérience que Dieu me rejoint, qu'il veut me rejoindre, qu'il s'intéresse à moi, et veut qu'en retour, je puisse m'intéresser à lui. Bien plus qu'il m'aime. C'est pourquoi la foi repose au fond sur une révélation. Vous voyez, une expérience personnelle de Dieu qui vient se donner. Dieu donc se révèle à l'homme. Révéler, en latin, ça veut dire enlever le voile. On l'a peut-être déjà dit. Dieu, quand il se révèle, en fait, il se dévoile. C'est quelque chose de grand, enfin, il me semble. Quelque chose de grand. Dieu qui est ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas sentir, toucher, qui dépasse toute pensée, qui, comme le dit la première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 16, pour ceux qui veulent briller demain soir dans les dîners, Dieu habite une lumière inaccessible. Ce Dieu-là, il veut se dire aux hommes, il se rend accessible aux hommes qui ne vont pas le cerner, c'est vrai, mais qui vont l'approcher, le contempler, le recevoir et l'aimer. Dieu qui est ineffable, peut se laisser approcher, contempler, recevoir et aimer. Oui, Dieu se révèle aux hommes, non pas parce que les hommes auraient gagné le droit de le contempler, de le toucher, de le connaître par leurs grandes actions. Personne de nous ne mérite que le monde existe, vous voyez, ne serait-ce pour que partir de ce point-là. Mais Dieu se révèle par pure gratuité. On dit dans le vocabulaire, 1, 2, 3, dans le vocabulaire de l'Église qu'il le fait par pure grâce. Grâce, c'est la même racine que gratis, ça veut dire gratuit. Dieu se révèle par pure grâce, non pour satisfaire la curiosité des hommes, mais pour leur permettre de vivre avec lui, de recevoir la vie divine, d'être unis à lui. C'est pas mal quand même. En se révélant, Dieu se donne, ouvre et prolonge le chemin permettant à l'homme de le connaître, de l'aimer et le rejoindre. Ce chemin qui était donné dans la création, qui était déjà un chemin vers Dieu, Dieu vient le tracer plus loin encore. La révélation, c'est donc ce qui nous permet de connaître Dieu dans son intimité, dans ce qu'il est, et pas seulement d'avoir la certitude qu'il existe. Et ça crée une envie de répondre au cœur de l'homme. On arrive dans la deuxième partie, cette réponse de l'homme à Dieu. Cette connaissance de Dieu, cette révélation de Dieu, elle donne envie d'en savoir plus, d'aller plus loin, d'aimer davantage. C'est ce qu'on appelle la foi. Pour reprendre les mots du catéchisme de l'Église catholique, que vous pouvez abréger en CEC, si vous voulez prendre des notes, donc dans le CEC au numéro 142, « Dans son immense charité, Dieu, qui est invisible, s'adresse aux hommes comme à ses amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui » et les recevoir en cette communion. La réponse à cette invitation est la foi. Voilà une belle définition de la foi. La foi, c'est ma réponse à une invitation de Dieu. Et ce faisant, numéro 143 du catéchisme, par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. C'est donc la réponse de l'homme au Dieu qui se révèle. Obéir, ça vient de ob audire, de ce qu'on entend. Et cette réponse, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, obéir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas un peu choquant, ce que je viens de vous raconter? J'ai vu personne bondir, parce que vous êtes bien élevé, mais peut-être que vous dites, c'est un peu bizarre quand même ce qu'il nous raconte là, ça rentre un peu dedans là. Eh bien, pour mieux comprendre, je vous propose de revenir sur la figure d'Abraham, le père des croyants. C'est lui le modèle de tous les croyants, alors voyons ce que ça veut dire pour lui, la foi. Abraham, c'est un habitant de la région de Babylone qui, un jour, entend un appel de Dieu à quitter son pays et à s'installer sur une terre que Dieu lui indiquera. À ce moment-là, il ne sait même pas où est l'objectif. Pourtant, il part. Et par cet acte de confiance, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croiraient. Il est le symbole de celui qui écoute, croit et obéit. En ce sens, lorsque Dieu voit Abraham, il voit aussi tous ceux qui, comme lui, poseront cet acte, et il voit tous les peuples qui, comme lui, pourront s'approcher de Dieu. Il dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Abraham, il ose ce geste de confiance en Dieu sur la parole de Dieu. Il entend la parole de Dieu et elle provoque en lui une certitude qui fait qu'il se lance, il avance, même s'il ne connaît pas encore l'objectif, parce que la voix de Dieu résonne d'une façon si particulière qu'on a envie de se mettre à sa suite. Abraham nous montre donc les deux dimensions fondamentales de l'obéissance. C'est d'abord la réponse à un appel de Dieu, puis un détachement, un déplacement. Deux dimensions. Et ces deux dimensions font donc de la foi un acte qui doit se renouveler, en fait, constamment. Puisqu'elle ouvre un chemin, la foi demande au croyant de redire à chaque pas qu'il est prêt à faire le suivant. Vous voyez, on n'a pas la foi donnée telle qu'elle, immuablement, pour toujours. C'est un chemin, et à chaque pas, il faut redire « Oui, je veux faire le suivant avec toi ». D'ailleurs, dans la Genèse, Dieu visite Abraham à plusieurs reprises au moment clé de son chemin. L'appel de Dieu, ce n'est donc pas l'appel d'un jour, mais l'appel de chaque jour, en fait. La vie du croyant est une vie marquée par l'appel de Dieu qui résonne chaque jour pour l'inviter à une plus grande confiance, à un chemin de plus en plus loin de ses certitudes de base. En conclusion, ce petit parcours avec Abraham nous permet de saisir que croire en Dieu, c'est d'abord croire en quelqu'un, tisser une relation avec lui, avant de croire ce qu'il nous révèle ou d'intégrer un contenu dogmatique, vous voyez. La foi, c'est une réponse de tout l'homme, et non pas un simple acte de volonté ou d'intelligence. Lorsque le catéchisme dit « par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu », il le dit, vous voyez, comme une soumission basée sur la confiance, qui « je ne sais pas où tu veux m'emmener, mais parce que c'est toi, je te suivrai ». Un peu comme Pierre, « sur ton ordre, je vais jeter les filets », vous voyez. C'est une soumission de l'intelligence et de la volonté par confiance, non pas une démission, vous voyez, de l'intelligence et de la volonté. Et ces deux facultés, intelligence et volonté, c'est les deux facultés maîtresses de l'homme. Et donc, en fait, le catéchisme, par là, veut dire que c'est tout l'homme qui se met à la suite de Dieu. C'est tout l'être humain qui est désigné, toutes ses facultés en tant qu'elles sont placées sous le contrôle de l'intelligence et de la volonté. Autrement dit, la foi est en fait une réponse personnelle au sens où elle nous engage à la fois individuellement, c'est vrai, mais aussi totalement. La foi n'est pas une affaire de cerveau, vous voyez, exclusivement, ou de ressenti, exclusivement. La foi, c'est tout l'homme qui s'engage. Mais la foi comporte encore une autre dimension. Là, je me suis centré sur une expérience personnelle, individuelle, mais ce n'est pas le tout de la foi. Ce n'est pas seulement la réponse libre de l'homme à l'initiative de Dieu qui se révèle, c'est aussi un acte collectif, un acte social. Et je voudrais m'intéresser maintenant à cette dimension-là. En fait, d'où elle vient, cette deuxième dimension, c'est que, en fait, nul ne peut croire tout seul, comme nul ne peut vivre tout seul. Personne ne s'est donné la foi à lui-même, de la même façon que personne ne s'est donné la vie à lui-même. Peut-être qu'on aurait bien aimé, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, ce n'est pas arrivé. Le croyant, tout croyant, moi comme vous, nous avons reçu la foi d'autrui. Nous avons reçu la foi parce qu'un jour, quelqu'un d'autre nous a parlé de Dieu et de la relation qu'il entretenait avec lui. Même Abraham, qui est le modèle de tous les croyants, il avait déjà entendu parler de Dieu. Ce n'était pas exactement le bon Dieu, c'était peut-être des dieux polythéistes, etc. Mais il avait déjà une idée de Dieu. Il était déjà lancé sur le chemin. Et puis après, le Dieu unique lui a parlé, il l'a reconnu et l'a suivi. Mais quelqu'un lui a parlé de Dieu, de la relation qu'il entretenait avec lui. Et donc chaque croyant, vous voyez, chacun d'entre nous, on est comme un maillon dans cette grande chaîne, ou un nœud de ce grand filet que forme l'ensemble des croyants. Je ne peux pas croire sans être porté par la foi des autres, mais du coup, c'est réciproque. Si moi, je ne partage pas ma foi, je ne vais pas permettre aux autres de se nourrir, en fait. Quelle que soit ma foi. Et posez la question à ceux qui vous ont marqué de leur foi. Demandez-lui s'il a l'impression d'avoir la foi, d'être un saint, je ne sais pas quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui vous diront oui. Vous voyez ? Et pourtant, nous, à chaque fois qu'on se dit, il faut que je parle de ma foi, on se dit, ah non, mais j'y connais rien, machin, j'ai que 20 ans de caté, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment partager notre foi parce que elle existe, elle est là, et les autres en ont besoin, elle nourrit les autres. Donc la foi se nourrit non seulement dans la prière, et on était heureux de vous permettre d'entrer dans une forme de prière la dernière fois, mais elle se nourrit aussi collectivement dans le rapport à la foi des autres. Alors peut-être que, à ce moment-là, vous allez dire, attendez, si chacun se met à me raconter sa vie sur sa foi, ça va être un bazar colossal. Et j'ai déjà entendu des trucs chelous quand même dans 2-3 personnes qui me disaient des trucs, je ne suis pas complètement convaincu que ce soit ça. Rassurez-vous, c'est arrivé assez vite dans l'histoire de l'Église qu'on se fasse la même réflexion. Et c'est vrai que devant la multiplicité des expressions personnelles de la foi, très vite, les chrétiens ont senti le besoin de synthétiser leur foi dans une prière qu'ils ont appelée symbole. Le symbole, pour un grec, c'est un objet qui permet de faire l'unité. Ou comme dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 188, il désigne en fait la moitié d'un objet brisé, par exemple un sceau, que l'on présente comme un signe de reconnaissance. Les parties brisées sont mises ensemble, et si elles correspondent, alors on peut reconnaître et vérifier l'identité du porteur. Et puis, le symbole de foi, c'est donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Et puis, petit à petit, il est venu aussi à désigner un recueil, une collection, un sommaire. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à ce qu'on appelle maintenant le symbole de la foi, qui a ces deux dimensions. À la fois un recueil des vérités principales, qui permettent de nous reconnaître les uns les autres comme chrétiens, et puis un instrument d'union, d'unité, de communion. Les symboles de foi, c'est donc ces textes qui permettent à l'Église de se retrouver dans l'unité, de vérifier et d'affermir ces liens de communion, parce qu'ils permettent à tous de savoir qu'ils expriment et partagent la même foi. C'est donc des textes très importants. Et ce que je trouve toujours très beau, c'est qu'à la fin du credo, à la messe, on ne dit pas « ouais, c'est solide, c'est carré », on dit « Amen ». On le vit comme une prière, en fait. Ce qui fait que même ce qui est de l'ordre de « qu'est-ce que je dois croire ?» s'exprime pas tellement sur le plan de l'intellection cartésienne que de la foi et de la prière. Je vous laisse méditer là-dessus, on pourra en parler plus tard. Bref, il y a eu de nombreux symboles tout au long de l'histoire, ils ont évolué, c'est vrai, mais le plus ancien symbole que nous récitions encore s'appelle le symbole des apôtres. Ce titre nous rappelle que notre foi repose sur la leur. Tout simplement parce que si eux n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas reconnu en Jésus le Fils de Dieu, s'ils n'avaient pas dit « ce Jésus qu'on a vu marcher, c'est bien le même que celui qu'on a vu après sa mort », on n'aurait aucun moyen de savoir que Jésus a existé et que c'est bien le même Jésus qui a marché sur terre et qui est ressuscité. On n'aurait pas moyen de savoir en fait que la résurrection, ça existe. ce qui serait un peu dommage pour notre foi, vous voyez. Voilà, première chose sur le symbole des apôtres. Le second symbole qu'on récite encore actuellement, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Vous savez, quand le prêtre le commence là, c'est celui où on se dit « Oulala, ça va être long, je ne le connais pas par cœur, c'est l'enfer, c'est celui-là, vous voyez ?» Très bien. Ce symbole-là, il était rédigé à la fin d'un rassemblement de tous les évêques chrétiens, en 325, qu'on appelle un concile, et il développe en fait le symbole des apôtres. Il s'appuie sur le symbole des apôtres pour le déployer, le développer. Parce que certaines des formulations du symbole des apôtres avaient été interprétées de manière trop disparate, trop bizarre en fait. Et cela a forcé les chrétiens à préciser ce qu'ils voulaient dire par certaines phrases, à en expliciter le contenu. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il est plus long, forcément. Voilà. Un petit point plus personnel peut-être. Ne vous étonnez pas du coup d'avoir vous-même, des fois, à avoir un peu à batailler pour expliciter ce que vous voulez dire. Quand vous dites ça, je le crois, et qu'on vous pose des questions. C'est normal. Et la foi de l'Église, elle a grandi comme ça aussi. Avec des gens qu'on a appelés les hérétiques, vous voyez, qui ont pris des options, et l'Église s'est dit « c'est pas exactement ça que je voulais dire. Par contre, ce que je voulais dire, c'est ça. » Et on creuse et on avance. C'est ainsi que la foi a changé, et là, mettez beaucoup de guillemets. Elle a changé pas n'importe comment. Vous percevez bien que ce changement, c'est pas un ajout, en fait. On ne vient pas innover, ajouter des nouveautés comme ça, parce que c'est super, les temps évoluent, et du coup, la foi, on va l'orner de choses super sympas. C'est un changement qui est en fait une explicitation de ce qui est déjà contenu en germe, mais qui a besoin d'être précisé. La foi, elle grandit plutôt qu'elle ne change, en réalité. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que ce symbole, du coup, comme c'est celui qui permet à l'Église de s'unir dans la foi, d'exprimer sa foi, il fait que lorsque je le récite, ce symbole, connu maintenant sous le nom de credo, qui veut dire « je crois » en latin, eh bien, ça veut dire que j'accepte, moi, de confronter ma foi à celle de l'Église, à cette expérience des croyants qui m'ont précédé et qui me disent ce qu'ils ont cru et quelle est leur relation à Dieu. Je viens m'enrichir, en fait, de toute l'histoire de l'Église, de toute cette histoire et de tout ce qui en est sorti de solide et de riche. Du coup, en fait, c'est une façon d'accepter aussi, de faire confiance, confiance à ceux qui m'ont précédé, pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent me dire de Dieu. C'était quoi cette expérience qu'ils ont faite ? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire quand ils me disent « Je crois en la communion des saints ». Et du coup, en découvrant petit à petit cette relation que eux avaient avec Dieu, eh bien en fait, je peux découvrir les traces de cela dans ma propre vie, enrichir ma propre relation. Vous voyez ? Donc le credo, ce n'est pas juste un truc pour nous cadrer de l'extérieur en disant « ça c'est la foi, vous restez bien dans les lignes ». C'est aussi quelque chose qui nous fait grandir dans la foi. Même quand on a du mal à y croire, l'acte, c'est simplement de dire il y a quelque chose là derrière. Si l'Église me le dit, c'est qu'il y a une expérience qui est solide derrière. Et même si je ne la comprends pas, eh ben, je peux chercher. Et alors, je vais faire mien ce « je crois » de ceux qui m'ont précédé. Je joins ma voix à la leur. Et donc, c'est pour ça que le credo, ce n'est pas un texte qu'on peut modifier pour des raisons de convenance. Parce que alors on court le risque de ramener le credo et toute sa richesse à la mesure de ce que moi je comprends de la foi. Et j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je crains que votre expérience ne soit de la foi ne soit jamais aussi riche que celle de l'Église depuis 2000 ans, vous voyez, prise dans son ensemble. Voilà. Je vous laisse ça, on pourra, si vous avez des questions là-dessus, on pourra en discuter. Mais voilà. Et donc lorsqu'on dit « je crois » finalement, je rejoins ce grand « nous croyons » de tous les croyants, unis par une même foi. Et de ce fait, en fait, nous devenons déjà comme un seul corps. Il y a déjà un début de communion qui se met en place. Et ce n'est pas étonnant qu'à la messe, ce soit juste avant la communion qu'on le récite. On entend la parole de Dieu, ça provoque la foi qu'on exprime ensemble, et on va communier ensemble derrière. On est déjà comme un seul corps. Et c'est pourquoi, malgré notre multitude, on ne formule pas la foi en disant « nous croyons », mais en disant « je crois ». Parce qu'à ce moment-là, c'est à la fois mon jeu personnel individuel, mon petit jeu de moi, Stéphane Fonsala, c'est vrai, mais en fait, il est pris dans ce grand jeu de toute l'Église. C'est l'Église qui dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Toute l'Église comme un seul corps. Et donc voilà, ces deux dimensions, je crois, nous croyons, qui s'articulent là aussi. Donc, l'expérience de foi comme une expérience personnelle, d'écoute de Dieu, d'oser se mettre à sa suite parce que sa parole qui résonne nous invite à aller plus loin. Et alors on découvre qu'on n'est pas le seul à vivre ce type d'expérience. Cette expérience, elle a été accumulée, synthétisée, purifiée tout au long de l'histoire. Elle nous est proposée dans le credo. Et ce grand jeu de toute l'Église, ce je crois de toute l'Église, on peut s'y joindre, y joindre nos voix pour, avec l'Église et par l'Église, rejoindre Dieu qui nous appelle à aller au ciel. Alors du coup, pour conclure, deux petites choses. D'abord, l'homme est capable de Dieu. L'homme est capable de recevoir de Dieu, d'entendre Dieu et d'aller vers lui. L'homme en est capable, et c'est beau. Et la deuxième chose, c'est que la foi est une relation, c'est vrai, personnelle, subjective, dirait-on, de nos jours, mais aussi une relation collective à Dieu. Ma foi se nourrit de celle des autres, s'enrichit de la foi des autres, de la foi de toute l'Église, synthétisée dans ce qu'on appelle le credo. Je vous remercie pour votre attention.